La danse des mots, Yvan Amar.
Bonjour, la danse des mots qui bien sûr va accueillir la puce à l'oreille dans quelques instants, que nous apportera Lucie Bouteloup et qui auparavant, et c'est le cas bien souvent cette semaine, peut-être plus souvent qu'à l'ordinaire, nous allons nous intéresser à la littérature. Bon, c'est normal, on est au mois de septembre, il y a ce qu'on appelle la rentrée de septembre, des dizaines, des centaines de livres paraissent, on ne peut pas tous les lire, alors on choisit ceux dont on pense qui vont vous plaire. Et il y en a un que j'ai lu tout récemment et qui m'a plu beaucoup, un roman qui s'appelle Khalil, dois-je prononcer Khalil ? J'imagine que oui, mais je vais demander à son auteur si je fais bien. Son auteur c'est Yasmina Kadra et le roman vient de sortir chez Julliard. Yasmina Kadra, bonjour.
Bonjour.
Je vous appelle Yasmina Kadra.
Oui.
Vous dites Kadra, Khadra, vous dites
Khadra,
quoi ?
Khadra, mais on peut aussi dire Kadra.
Ouais.
Vous n'avez pas le kha.
On ne l'a pas, mais on peut l'apprendre.
Oui.
On peut essayer, en tout cas.
Mais il faut toujours apprendre. Le monde, la vie, c'est une instruction permanente.
Alors, votre titre et votre personnage principal, comment vous l'appelez-vous ?
Khalil, mais en France, on l'appelle Khalil.
Mais Khalil, ça sonne quand même, hein,
oui.
C'est pas mal.
Oui, ça le renvoie tout de suite à d'où il vient.
Et d'où il vient, est-ce qu'il le sait lui-même, ce jeune homme de Molenbeek, ce jeune homme qui est donc un islamisme embrigadé à l'image de ceux qui ont perpétré les attentats du 13 novembre d'il y a quelques années, puisque c'est
2015.
De 2015, puisque c'est à partir de là que vous avez écrit votre livre. Bah, ce jeune homme, d'où est-ce qu'il vient justement ? Est-ce qu'il le sait ? Est-ce que vous le savez ?
Lui, il sait parfaitement qu'il est né en Belgique, plus exactement à Molenbeek. Il sait qu'il a fait l'école belge et qu'il était appelé à devenir citoyen belge. Mais comme son père vient du Maroc, il s'est toujours posé un problème d'identité. Et c'est très grave aujourd'hui que l'identité l'emporte sur la citoyenneté. Parce que tout simplement, on est presque dans un déni de l'autre soi, alors qu'il faut être entier dans la vie. Il importe peu.
C'est difficile d'être entier dans la vie. Hein.
Ah si, si, c'est très facile. Je vous assure que c'est facile. Hein. Il suffit tout simplement de se dire que je suis unique et irremplaçable. Tout être humain est unique et irremplaçable. Et par votre conséquence, il ne peut qu'être entier. Mais il lui arrive aussi d'être tellement fragile... de se laisser se diluer dans le doute, dans l'incertitude, dans des questionnements qui l'éloignent de l'essentiel, c'est-à-dire il essaie toujours de trouver refuge ou une légitimité dans ce qui n'est pas toléré. Et là, il renonce à sa citoyenneté d'abord et il essaie de se reconstruire dans une identité qu'il n'a plus. Et d'où l'égarement, d'où la perdition qui est au bout du chemin.
Mais vous le dites vous-même, Yasmina Khadra, je vais prononcer comme vous, je vais essayer. Il essaye de se constituer, il essaye de se reconstituer, parce que vous évoquez la citoyenneté et l'identité, ce ne sont pas des données, ce sont des choses qui se construisent.
Oui, ça dépend, hein. On ne peut pas subir que ce que nous croyons, qu'il est contraire à ce que nous voulons être. Or, quand on est dans la citoyenneté, on appartient à une nation, on s'identifie à ses camarades d'école, à ses voisins, à ses amis de tous les jours. Et c'est de cette façon qu'on retrouve un certain confort dans son identité. Donc on n'a pas à avoir peur d'être d'où l'on vient. On pourrait peut-être avoir peur de ce qui nous attend au tournant. Mais si on est armé pour... armé dans le sens le plus large, c'est-à-dire si on est armé intellectuellement, culturellement, humainement, je pense que la peur ne sera pas au rendez-vous.
Mais en même temps, l'identité et la citoyenneté sont des choses qui ne se superposent jamais de façon absolue.
Moi, je ne suis pas tellement d'accord avec ça.
Vous pensez que On est 100% citoyen ? On est autre chose qu'un citoyen, quand même ?
Non, on est d'abord citoyen.
On est peut-être d'abord citoyen, c'est-à-dire qu'on vit avec d'autres à une certaine époque et dans un certain espace. Oui. Mais on n'est pas que ça.
Bien sûr, mais si à la base, si la base est un socle fiable, si on est fier de ce qu'on propose à son entourage, si on est utile aux autres, si on est dans la générosité, si on est aussi dans l'émancipation, je ne sais pas moi, si on est dans le contact sain avec les autres, on n'a pas de souci à se faire. Mais lorsque d'un seul coup, on se pose des questions qui nous éloignent de notre réalité, de notre vérité, qui essaie de trouver des réponses là où la question ne doit pas se poser, là, on a un souci à se faire.
C'est vrai. Alors, autre question, comment écrire un roman comme le vôtre qui s'appelle Khalil ? Vous écrivez, vous êtes écrivain, vous écrivez dans un français extrêmement facile, extrêmement fluide, extrêmement simple à comprendre. On s'approprie votre texte de façon très facile, je dirais. Et en même temps, vous faites parler, bien entendu, vos personnages. Il y a des dialogues. Les dialogues ne sont certainement pas ceux qu'ils auraient pu être, disons, dans la vie réelle, entre guillemets. Vous n'écrivez pas comme vos personnages parlent. Est-ce que vous êtes conscient de cette distorsion entre le langage d'un jeune de Molenbeek, c'est-à-dire la banlieue de Bruxelles, un jeune, comme on dit, issu de l'immigration, et la façon dont vous le faites parler ?
Écoutez, c'est peut-être tout le drame de l'humanité vient de là. On croit toujours qu'un type qui vient de la banlieue n'a pas suffisamment de culture pour bien développer ses idées. Mais c'est une erreur, une très grosse erreur, pour ne pas dire carrément grossière. Moi, j'étais au Mali, à Gao, et un jour, j'ai rencontré un berger. On était en train de faire la tournée des villages, c'était la guerre là-bas. Et moi, j'étais dans le comité de suivi de la trêve et j'espérais tout simplement que les Maliens s'asseyent autour d'une table et qu'ils discutent et qu'ils aillent tranquillement vers le pacte national, c'est-à-dire la paix. Et donc, j'ai rencontré ce berger et on a discuté et j'ai trouvé qu'il avait une clarté dans sa façon de dire les choses, de comprendre, de se situer par rapport aux êtres et aux choses, qui était absolument fascinante. Donc il ne faut pas condamner, il ne faut pas croire que les gens qui viennent des banlieues ne savent pas parler, au contraire. Et puis, il y a aussi ma mission.
Vous voyez, ce n'était pas ce que je voulais dire. Oui. Bien entendu, on peut avoir une lucidité, une finesse de perception de la réalité, une finesse d'analyse, mais elle s'exprime dans un certain langage. Et le langage que vous utilisez dans votre livre, ne serait-ce que parce que c'est de l'écrit et que quand on parle, c'est de l'oral, y a un décalage entre les deux. Est-ce que vous travaillez sur ce décalage ? Est-ce que vous êtes conscient de ce décalage quand vous écrivez ?
Écoutez, moi, si je prête ma plume à un personnage, c'est pour qu'il puisse dire exactement ce que peut-être dans la vie courante, il est incapable de dire. Et de cette manière, je l'explique mieux. C'est à quoi ça sert de le faire parler comme un abruti, alors qu'en lui, il y a toute une tragédie qui s'opère, il y a tout un questionnement qui est même capable de le détruire. Voilà. Et à travers ce dialogue, j'essaie surtout de le situer dans ses incertitudes, dans ses doutes, dans ses colères. Voilà. Et c'est pour ça que ma plume se doit d'être au service de la pensée et non pas au service de ce qui est roturier.
Ça, c'est sûr, parce que, par exemple, si on lit un extrait de votre livre, voilà ce qu'on y trouve. « Perdu dans mes pensées, je ne voyais ni les rues ni les gens. J'étais un mort-vivant errant dans le brouillard. Était-ce l'absence de Driss ou le fait d'être livré à moi-même qui effaçait le monde autour de moi ? J'étais si seul et si malheureux, j'avais besoin de quelqu'un à qui parler pour me prouver que les murs qui m'escortaient étaient de pierre et de briques, que le bruit alentour n'avait rien à voir avec le roulis diffus dans ma tête. Je me sentais aussi vide qu'un sachet gonflé de vent. Je ne marchais pas, je flottais. » Alors, est-ce que, bien entendu, ça donne une très bonne idée de l'état d'esprit de votre Khalil quand il marche dans cette ville et qu'il sait plus très bien à quel sens se vouer d'une certaine façon. Mais probablement, les mots qui roulent dans sa tête ne sont pas ceux que vous avez utilisés pour donner l'idée de son état d'esprit et de sa finesse d'analyse, de sa finesse, de sa perception de lui-même.
Si on le convoquait et si on lui demandait ce qui n'allait pas, il ne saurait pas trouver les mots. Mais c'est là qu'intervient l'écrivain. Il faut absolument que le lecteur comprenne ce qui se passe dans la tête de ce personnage. Sinon, à quoi ça sert d'écrire? Si ce n'est pas pour aller au-delà de ce qu'on entend tous les jours. Et quelquefois, ce qu'on entend n'est que l'écho d'un chahut qui n'est pas tellement instructif ou constructeur. Voilà, et c'est pour ça que l'écrivain se doit aussi de, s'il prête sa plume à un personnage, surtout si ce personnage parle à la première personne du singulier, et il faut aller au plus profond de son être, il faut le traquer dans ses derniers retranchements pour faire sortir à la lumière cette part de noirceur qui est en lui.
Donc d'une certaine façon, vous avez l'impression, Yasmina Kadra, qu'être écrivain, c'est une activité pédagogique qui consiste, entre autres choses, à donner plus de clarté à ce que pensent les gens d'eux-mêmes.
Oui, si on écoutait Jean Valjean, un petit bagnard qui n'a jamais été à l'école, un petit voleur qui est ingrat et tout, jamais on aurait vraiment perçu sa personnalité. Mais heureusement, il y avait Victor Hugo qui était là. Et c'est moi, j'ai lu quelque part, de temps en temps, on me reprochait de faire parler mes lecteurs comme Monterland. Mais justement,
c'est pas un reproche, mais c'était une question que je vous posais, parce que c'est l'une des questions qui m'ont assailli quand j'ai lu votre texte.
Oui, mais comment peut-on comprendre si on se limitait à l'étroitesse de l'esprit du personnage? Comment peut-on le comprendre? C'est-à-dire, on ne peut que le condamner. Même si on veut vraiment trouver une solution, il faut absolument rassembler tous les ingrédients capables ou susceptibles de nous offrir une idée. Une idée de ce qui ne va pas. Et une idée de ce qui pourrait aller. Alors c'est pour ça que l'écrivain se doit aussi d'être à la hauteur du personnage sur lequel repose toute une histoire. D'ailleurs, ce n'est pas le texte, ce n'est pas l'écrivain qui fait avancer, ce n'est pas le style d'un écrivain qui fait avancer ou qui est capable de rendre crédible une histoire, mais c'est le personnage lui-même. Et s'il devient une personne à part entière, si on l'entend, si on le voit bouger, si on le perçoit nettement, à partir de ce moment, on peut le suivre.
La danse des mots avec vous, Yasmina Radra, à propos de ce Khalil qui vient de sortir chez Julliard et qui met en scène un certain nombre de jeunes gens qui habitent à Molenbeek ou tout autour dans cette banlieue de Bruxelles. Alors vous dites vous-même, Yasmina Radra, que vous avez été à Molenbeek, vous y avez été pour mener l'enquête. C'était vraiment en prévision de l'écriture de ce livre?
Non, c'était vraiment, bien sûr. Je suis allé là-bas parce que je voulais écrire ce livre. Voilà, et je l'avais déjà commencé, et puis je m'étais arrêté parce que je ne voulais pas revenir à une thématique que j'avais largement exploitée ou traitée. Mais je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas tout simplement aller là-bas et essayer de, non pas d'enquêter, mais juste d'observer. Et c'est cette observation qui m'a permis de mieux cerner les choses.
Donc vous y allez, vous observez, vous ouvrez vos yeux, vos oreilles?
Oui, je vais dans les cafés, je rencontre des jeunes, je discute avec eux, je rencontre des filles un peu partout, des barmanes, je leur demande, je leur pose des questions assez bateaux, comment ça va et tout, mais j'ai trouvé qu'ils avaient une ouverture d'esprit, une générosité et surtout un discernement que souvent on ne trouve pas dans la presse, par exemple, ou chez certains intellectuels.
Oui, certainement.
Ce qui manque aujourd'hui, c'est le discernement. Et c'est ce discernement qui permet à tout un chacun de recouvrer sa singularité. Et il n'y a de singularité chez l'être humain que son libre arbitre. S'il n'est pas capable de réfléchir par lui-même, s'il va aux informations comme on va au supermarché prendre les prêts à consommer, c'est que quelque part il y a un dysfonctionnement.
En même temps, ce que vous montrez beaucoup, c'est le désarroi de ces gens-là. Vous mettez en scène ce Khalil. Il est là, il va au Stade de France pour essayer de se faire sauter. Il a endossé un gilet qui n'est pas le bon, qui ne va pas déclencher la bombe. Donc il revient, il veut pas qu'on le prenne pour un lâche. Il dit j'ai essayé, j'ai appuyé sur le bouton, ça ne marchait pas, je veux m'expliquer, etc. Et très souvent, vous répétez que, ou lui-même répète, qu'il veut mourir en martyr. Et en martyr, pourquoi ? Jamais il ne le dit. On est devant cette espèce d'aporie, devant cette espèce de mur, où il dit justement qu'il veut vivre selon des préceptes religieux qu'on lui a enseignés, etc. Mais on a l'impression qu'il ne sait pas très bien pourquoi, qu'il s'arrête justement à une espèce de foi presque aveugle.
Oh, il sait parfaitement pourquoi il veut mourir. Hein.
Pourquoi ?
Il veut aller au Ferdous.
Alors, c'est un mot qui revient plusieurs fois dans votre... C'est l'un des rares mots qui ne soit pas français qui revient dans votre roman.
C'est le paradis VIP. L'accès au Ferdous que les saints des saints, les prophètes et tout. Et comme lui, il a accepté de mourir pour cette cause qui le dépasse finalement. Il est persuadé que la compensation, c'est justement de finir dans ce Ferdous. Mais il oublie que le paradis, il est sur terre d'abord. Et d'ailleurs, il y a un personnage magnifique qui s'appelle Ryan, qui est lui. Il a vécu avec les deux kamikazes dans la même maison.
Driss à gauche et Ryan à droite. Oui. Et l'un devient kamikaze, l'autre non, justement.
Non, pourquoi ? Parce que tout simplement, tout le problème est à la maison. Au commencement, la dérive se situe à la maison. Si on ne veille pas sur ses enfants, si on n'a rien, aucune fierté à leur proposer, eh ben, ces enfants, ils vont chercher leur famille ailleurs. Ryan avait une mère qui pensait à lui, qui avait fait tout, qui s'est sacrifié pour lui. Il ne pouvait pas ne pas réussir dans la vie. Ils sont partis sur un même pied d'égalité. L'un a décidé de réussir, l'autre a décidé d'aller à l'école buissonnière et finalement ça l'a conduit au buisson.
Oui, ça l'a conduit au buisson, mais sait-il vraiment pourquoi justement il veut aller dans cette espèce de paradis VIP et quitter cette vie dont il pense que c'est pas le paradis sur Terre ?
Ben, comme tous les jeunes qui sont allés faire la guerre au monde, ils ont été d'abord séduits et fascinés par le discours des intégristes, qui n'est pas violent au départ. Le discours au départ, il est surtout humain. On parle de justice, on parle d'égalité, on parle de pudeur, de vertu, de qualité. Enfin, on parle de toutes les belles choses. Et puis, l'appât devient de plus en plus venimeux. Parce que d'un seul coup, on passe de la théorie à la pratique. Et à la pratique, on découvre autre chose. On découvre qu'on est peut-être manipulé. Et on a peur de ceux qui nous ont engagés. Voilà, tout le livre le prouve.
Alors, j'aimerais bien revenir à un extrait justement de votre livre. Quand il parle, ce Khalil, avec un des personnages qu'il croise dans le livre, c'est Moka. Moka Filamou, peu convaincu. Ses moyens, ton réquisitoire. Finir dans un accident et finir dans un attentat, c'est différent. Il ne s'agit pas de comment ça finit, mais de comment ça commence. Il suffit de bien peu de choses pour que l'on dégringole dans l'estime de soi. Et alors, bonjour les dégâts, tout part en vrille, ça paraît dérisoire. Pourtant, ça te fout l'existence entière en l'air. Il n'y a pas plus fragile qu'un apatride. Alors, est-ce que Yasmina Khadra, en effet, c'est l'important, c'est pas comment ça finit, mais c'est comment ça commence?
Oui, oui, bien sûr.
Qu'est-ce que vous entendez par là ?
Ben, ça commence. À partir de quel moment on a commencé à dérailler ? À partir de quel moment on a commencé à détester la société, à détester les autres, et à se chercher une famille ? Voilà, c'est peut-être un moment de... Peut-être c'est à cause d'une humiliation, d'un malentendu, d'une bagarre, ou d'un seul coup, on se sent véritablement étranger à son propre pays. Voilà, la dérive commence à ce niveau.
Et on peut se réconcilier avec son propre pays, même si on a mal démarré ?
Bien sûr. Vous savez, au commencement, il y a eu le verbe. C'est par le verbe que ces jeunes ont été détournés. Et c'est par le verbe qu'on peut les faire revenir à la société.
Et pour vous, le verbe, c'est le roman ? En ce qui concerne votre travail, en tout cas.
Non, c'est pas seulement le roman, c'est le discours, c'est ce qu'on entend à la télé, ce qu'on entend, ce que disent les intellectuels, les chercheurs. Il faut que ces gens-là comprennent que la société leur offre une chance. Et c'est à eux, c'est à ces jeunes de la saisir. Voilà, mais malheureusement, qu'est-ce qu'on entend à la télé? On attend uniquement des stupidités, la colère, le racisme, la haine. Et on est en train de faire peur aux masses. On est en train de faire peur à tel point que le fait de voir un musulman, c'est tout de suite, on voit en lui un terroriste potentiel, alors que les musulmans sont des êtres fantastiques. On peut aller dans tous les pays musulmans du monde. Et je demande à ces gens-là qui sont en train de diaboliser, de stigmatiser les musulmans, d'aller par exemple dans un pays musulman, qu'ils aillent par exemple en Égypte ou bien au Maroc, qu'ils aillent en Malaisie et voir comment ils sont accueillis, voir comment ils sont tout de suite adoptés, comment ils sont entourés.
Comment ils sont considérés.
Oui, ils sont considérés. Et c'est vraiment, moi je ne comprends pas pourquoi il y a tout un courant un peu bizarre, très suspect, qui essaie par tous les moyens de nous faire sortir du sujet pour nous mettre là où il n'est pas question de... voilà, où la question ne se pose même pas.
Eh bien, merci beaucoup Yasmina Khadra pour Khalil que vous venez de faire paraître donc chez Julliard. La danse des mots qui retrouve bien entendu avec Lucie Bouteloup La puce à l'oreille qui nous arrive.
La puce à l'oreille.
Bonjour mon cher Yvan Amar.
Bonjour ma chère Lucie Bouteloup.
Alors aujourd'hui, comme promis, je reviens avec une nouvelle puce en compagnie de Marie-Hélène Drivaud. Marie-Hélène Drivaud, eh bien, c'est la responsable éditoriale au dictionnaire Le Robert. Rien que ça. Un entretien donc à bâton rompu autour de la nouvelle expression du jour qui est, je vous laisse deviner mon cher Yvan.
Mais je ne sais pas comment pourrais-je deviner une chose pareille. Dites-la moi, je brûle d'impatience.
Eh bien parler à bâton rompu. Eh oui,
ah,
et toc.
Vous allez rompre quelques bâtons avec Madame Drivaud.
Tout à fait, mais avant de la retrouver, eh bien, je vous propose d'écouter sans plus tarder les propositions de la classe de Christelle Gaspard à l'école de la mode piquée à Paris. Parler à bâton rompu, une expression qui les a plutôt inspirés pour cette rentrée. Écoutez voir.
Un bâton qui a été brûlé, ça veut dire qu'on a coupé un bâton.
En fait, c'est quand il y a quelqu'un qui est dans la forêt, il a une hache, il y a quelqu'un, il arrive, il lui coupe la parole, et après lui, il a trouvé un bâton, il l'aime, après l'autre, puisqu'il lui a coupé la parole, et ben il lui coupe son bâton.
Il y a un morceau de bois qui a été ensorcelé.
Ça veut dire qu'il y a du vent et ça fait bouger les feuilles, et après on apprend à parler le langage des arbres.
Parler à bâton rompu, ça veut dire parler méchamment.
Quand il y a une fille et un garçon qui étaient ensemble, ils ont rompu. Donc, un bâton rompu, ça serait une dame et un monsieur qui ont rompu.
En fait, à l'époque des hommes préhistoriques, en fait, quand ils faisaient des concerts, ils prenaient des bâtons et en fait, il y a quelqu'un qui lui a coupé la parole en prenant une hache et lui couper le bâton.
Alors Marie-Hélène Drivaud, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ont été très inspirés, les enfants, sur
oui,
cette expression.
On était dans la violence avec beaucoup de haches qui s'abattaient.
Mais pas que, il y avait aussi la rupture amoureuse qui était assez charmante,
oui,
le bâton
ensorcelé. Des arbres.
Ouais, un peu de magie, ça fait du bien. Voilà. Alors est-ce qu'ils sont loin ou est-ce qu'ils sont près du compte?
Eh bien, je ne saurais pas vous dire parce que, en fait, cette expression a gardé une part de son mystère. Donc, on est sûr de rien. Alors, parler à bâton rompu, déjà, ça veut dire parler librement, en passant d'un sujet à l'autre, d'une manière qui n'est pas suivie, sans plan précis. Voilà. À l'inverse d'une conversation extrêmement planifiée avec des sujets à l'ordre du jour.
C'est aussi de façon informelle, parler
oui,
de façon assez informelle.
Oui, mais enfin,
décousu.
On pourra dire aussi que les deux ministres ont échangé à bâton rompu, c'est-à-dire que bon, ils n'avaient pas une liste de sujets précis, donc ils ont abordé les sujets qu'il désirait dans un ordre libre. Et ça ne se dit que de la parole, hein, que de l'oral, et pas de l'écrit. On ne dira plus aujourd'hui, j'ai écrit une lettre à bâton rompu. Oui. Ça pouvait se dire il n'y a pas très longtemps, mais ça ne se dit plus.
On disait aussi travailler à bâton rompu.
Oui, ça ne s'emploie plus que dans le contexte de la parole, mais autrefois, comme vous le dites très bien, on pouvait manger à bâton rompu, travailler à bâton rompu, s'occuper de quelque chose à bâton rompu.
Hein. Alors, c'était... quelles sont les différentes pistes?
Alors, je vais vous décevoir en vous disant donc, que l'origine n'est pas bien connue. C'est d'autant plus difficile de connaître son origine que le mot bâton a de nombreux sens et qu'il est donc difficile d'en choisir un comme point de départ. Alors, le grand Émile Littré, qui est un auteur de dictionnaire du 19e siècle, très connu, a proposé une hypothèse. Alors, pour lui, il est parti de l'idée que ces bâtons, ce sont les bâtons, les baguettes, avec lesquelles on tape sur un tambour.
Ouais.
Donc, quand vous tapez sur un tambour, je ne sais pas très bien jouer du tambour, je précise, vous pouvez soit prendre vos baguettes pour effectuer un roulement continu, hein, un bruit continu, ou vous pouvez frapper des coups espacés en s'interrompant. Et en s'interrompant, on retrouve l'idée de rompu, hein, c'est la même famille. Donc un bâton rompu, ça voudrait dire en espaçant les coups de bâton.
Oui, donc il ne s'agit pas de bâton qu'on aurait cassé.
Non.
Il s'agit de rompre comme interrompre.
Voilà, en interrompant donc
le rythme.
Sans produire un roulement, mais en interrompant les coups, donc en faisant plutôt tac,
en
tac,
interrompant
tac.
Le rythme,
voilà.
Comme on interrompt le rythme de la parole.
Voilà, alors ça, c'est assez séduisant comme hypothèse, mais on ne sait pas si c'est exactement ça. La deuxième hypothèse ferait remonter donc cette expression au vocabulaire du blason, des armoiries, hein, c'est ce langage un petit peu compliqué qui remonte au Moyen-Âge. Donc sur un blason, un bâton, en fait, c'est une petite barre verticale, et rompu, ça veut dire brisé. Donc on a aussi évoqué un motif décoratif fait de lignes brisées, comme sur certains parquets par exemple,
et sur, les
sur les tapisseries, voilà. Donc c'est ce qu'on appelle les bâtons rompus.
Mais je vois pas bien en fait le...
On retrouve l'idée d'interruption, de cassure qui caractérise ces conversations, mais on ne saisit pas exactement le rapport. Hein. Donc tout comme souvent, ces expressions très anciennes conservent une part de mystère encore aujourd'hui, et on n'a pas de fil conducteur très convaincant.
Bon, en tout cas, on aura compris que l'idée qui ressort, c'est donc cette idée d'irrégularité, de discontinuité.
Voilà.
Parler à bâton rompu, c'est une expression qui est encore beaucoup utilisée,
oui.
Il me semble.
Oui, oui.
Qu'est-ce qu'on peut trouver comme synonyme? Passer du coq à l'âne?
Passer du coq à l'âne, oui.
Donc, encore une fois, nous allons garder cette expression « parler à bâton rompu », Marie-Hélène Drivaud.
Oui, oui, elle est très bien, même si on ne connaît pas son origine, ça ne gêne pas tant que ça.
Bon, j'espère que c'est clair pour tout le monde. En tout cas, si ça l'est pas, je vous rappelle que vous pouvez réécouter les explications de notre invité, ainsi que l'intégralité des puces sur le site de RFI Savoir. Rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, autour d'une nouvelle expression. D'ici là, bonne semaine.
Bonne semaine.
C'était donc La Danse des Mots, une émission proposée par le réseau Canopé et par RFI, Lucie Bouteloup, Véronique Durand, Yvan Hamard.